France Culture. Le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie.
Et vous, quel est le livre qui vous a marqué, celui qui agit encore telle une révélation ? Philosophe, historien et anthropologue aussi ont ce livre, ce texte, cet auteur qui continue à les hanter et qui a insufflé leurs pensées. Chaque vendredi, l'un d'entre eux vient nous en parler et aujourd'hui, c'est le grand anthropologue Philippe Descola qui a choisi d'évoquer l'œuvre de celui qui a été son directeur de thèse et qui a popularisé l'ethnologie avec Triste Tropique, Claude Lévi-Strauss.
Dans Triste Tropique, je me suis permis de m'affranchir de toutes ces disciplines qui sont celles de l'homme de science. Ce sont des vacances que je me suis offertes vis-à-vis de la science. Je dirais une comparaison, je ne sais pas si vous êtes photographe, moi je le suis amateur au moins. Dans nos entreprises qui visent à l'objectivité scientifique, nous travaillons un petit peu comme un photographe armé d'un téléobjectif. Nous essayons de saisir des sujets qui sont extrêmement éloignés de nous et la méthode a pour objet de les rapprocher comme les lentilles du téléobjectif et non seulement de les rapprocher mais en les rapprochant d'isoler à l'intérieur de notre sujet ces aspects qui sont susceptibles d'une analyse scientifique rigoureuse. Dans Triste Tropique, j'ai voulu tenter la démarche inverse. Au lieu du téléobjectif, d'employer un grand angulaire, c'est-à-dire qui photographie non pas seulement le détail dans l'ensemble, non pas seulement l'ensemble dans cet ensemble encore plus vaste dans lequel il se trouve, mais l'observateur lui-même en train de photographier son monument, et que tout ça se trouve à l'intérieur du tableau.
Bonjour Philippe Descola.
Bonjour Géraldine.
Bienvenue dans le souffle de la pensée. Vous avez évidemment reconnu sa voix, c'était la voix de Claude Lévi-Strauss. Il a été votre directeur de thèse, je l'ai dit, vous l'avez lu. Vous avez commencé par Triste Tropique et puis vous l'avez rencontré en vrai. Vous êtes un de nos rares invités à avoir rencontré l'auteur du livre qui a déterminé, on pourrait dire, leur vie. Alors, qu'est-ce que ça fait de rencontrer un auteur aussi déterminant pour soi ?
Alors, j'ai eu cette chance, en effet, de pouvoir rencontrer et étudier avec la personne qui avait déterminé ma vocation. J'ai eu cette chance parce que je crois que beaucoup d'anthropologues contemporains qui sont mes contemporains ont aussi, pour les discussions que j'ai pu avoir avec eux, été fortement impressionnés par Triste Tropique et pour certains d'entre eux, c'est la lecture de ce livre qui a déclenché leur vocation. Mais j'ai eu la chance d'être le dernier étudiant, si je puis dire, de Claude Lévi-Strauss, et donc peu d'entre eux ont pu réaliser ce rêve, d'une certaine façon, c'est de passer de la lecture à l'entretien. Et le premier entretien que j'ai eu avec lui était pour moi quelque chose de très impressionnant, parce que lorsque l'on va voir un auteur qui... J'avais lu entre-temps, bien sûr, plus que Triste Tropique, j'avais lu ses ouvrages savants, et pour moi, il était évident que Claude Lévi-Strauss était l'un des grands intellectuels du XXe siècle. Et donc, j'étais normalien à l'époque, mais comme le sont quelquefois les normaliens un peu prétentieux, mais le fait d'aller voir Lévi-Strauss a complètement rabattu ma morgue, parce que pour moi, c'était comme d'aller voir Kant à Königsberg. C'était une ascension vers un Olympe extraordinaire. Et Lévi-Strauss était très patient, il a écouté ce que je voulais faire, et ma situation, je le raconte dans un de mes livres, dans Les Danses du Crépuscule, était d'autant plus délicate, et c'est aussi une expérience que d'autres collègues ont traversée, qu'il y avait dans son bureau un grand fauteuil en cuir, un peu défoncé, et à l'assise très basse, de sorte que l'on était quasiment assis au ras du sol, enfoui dans ce fauteuil, et lui s'asseyait à côté de vous sur une chaise en bois un peu dure, et vous dominez en quelque sorte comme un oiseau de proie, et en vous regardant d'un œil inflexible. Et à mesure que je parlais, j'avais le sentiment que je disais de plus en plus de bêtises et que j'interrompais des travaux de la plus haute importance. et à ma grande surprise, et après avoir exposé mon projet de thèse, il a accepté de diriger ma thèse.
Tout de suite ? Il a dit oui, tout de suite ?
Oui, il a dit oui tout de suite parce que c'était une région qui l'intéressait. La Haute Amazonie, qu'il ne connaissait que de façon, j'allais dire, non pas superficielle, puisqu'il avait une connaissance extraordinaire de l'ethnographie des basses terres de l'Amérique du Sud, mais qu'il intéressait aussi parce qu'il avait déjà l'esprit d'écrire ce livre qui s'appelle « La potière jalouse ». Et qui est fondée sur l'analyse d'un mythe Jivaro. On les appelait Jivaro à l'époque, on les appelle maintenant Einstigem, et la société que je comptais décrire était l'une des tribus Jivaro. Et je pense que c'est l'une des choses aussi qui l'a convaincu de m'accepter comme étudiant en thèse. Mais effectivement, on n'a pas du tout parlé de Triste Tropique.
Vous en avez déjà parlé une fois avec lui de ce
livre ? Jamais. On a parfois parlé du Brésil parce que il avait.
Bah, et quand même de votre thèse aussi, j'imagine.
Bah, on a parlé de ma thèse, mais Lévi-Strauss n'était pas quelqu'un avec qui on pouvait venir au déboté pour bavarder comme ça. Il fallait avoir des bonnes raisons pour lui rendre visite dans son bureau et pour lui poser des questions précises. Donc on avait parlé de ma thèse sans aucun doute, mais Triste Tropique était un domaine d'une certaine façon réservé puisque il s'était déjà exprimé à ce propos. En revanche, il parlait, et ça nous arrivait de parler du Brésil, qui n'était pas l'endroit où j'avais fait mon terrain, mais que je connaissais un peu, et dont il était évident que c'était un pays qu'il avait beaucoup marqué. Mmh. C'est très visible dans Triste Tropique.
Donc vous ne lui avez jamais dit que c'était la lecture de Triste Tropique qui avait déterminé votre vocation d'anthropologue ? Est-ce d'ailleurs véritablement le cas que ce soit que c'est ce livre-là qui vraiment, quand vous l'avez lu, à l'âge de 16 ans, 17 ans...
17 ans, oui.
Alors, vous avez dit vraiment, c'est ça que je veux faire.
Alors, c'est plus compliqué que ça. C'est une amie qui me l'avait offert. Et c'était en dépit de la fameuse phrase initiale du livre « Je hais les voyages et les explorateurs ». Dans les premières pages, j'avais l'impression que c'était un récit de voyage, et j'ai beaucoup lu de récits de voyage dans mon adolescence. C'était un genre que j'aimais bien, à la fois le meilleur et le pire d'ailleurs. Dans ma famille, nous avions la chance d'avoir des volumes reliés d'une revue qui s'appelait Le Tour du Monde, et qui était un peu l'équivalent d'une National Geographic de l'époque, d'une revue française, et qui publiait des récits de voyage, certains d'entre eux par des proto-ethnographes, dans différentes régions du monde, écrits souvent par des géographes ou des naturalistes. Et donc, j'avais l'habitude de cette littérature que j'ai prise très tôt, et qui transportait le lecteur en Amérique du Sud, dans les Andes, en Asie centrale, dans les Carpates, etc. Et très tôt, je me suis intéressé, au fond, à la découverte de formes alternatives de vivre la condition humaine que ces voyages décrivaient. Mais il m'arrivait aussi de lire de la mauvaise littérature de voyage.
Comme en décrit d'ailleurs Claude Lévi-Strauss au début de son livre Triste Tropique.
Celle dont il dit qu'il souhaite
sa mort.
Non pas sa mort, mais en tout cas c'est ce qu'il ne souhaite pas faire dans ce livre. Parce que au fond c'était un peu l'esprit d'aventure. Je ne sais pas si un jeune homme à l'heure actuelle peut encore envisager l'esprit d'aventure comme c'était à l'époque, mais
vous, votre
fond,
époque, quand vous parlez de votre époque, c'est on est dans les années début des années 70.
On est à la fin des années 60, Et on a le sentiment, et je l'ai fait après, que le monde nous était ouvert d'une certaine façon. Et donc j'ai beaucoup, avant d'aller en Amérique du Sud, j'ai beaucoup voyagé, comme on le faisait à l'époque, sac au dos, au Proche-Orient, par exemple, où on était à l'époque relativement bien accueillis. Et je me suis rendu compte après que c'était un effet du colonialisme, même si des pays comme la Turquie ou l'Iran n'avaient pas été colonisés, il y avait vis-à-vis de ces visiteurs qui se baladaient en autostop et dans ces pays où on pouvait vivre avec très peu d'argent, pour les visiteurs, il y avait une attitude, j'allais dire, de respect, non pas de respect, mais en tout cas d'idée que c'était des émissaires d'anciennes puissances coloniales. Mmh. Et que donc on était relativement protégés. Dans beaucoup de régions où j'ai été, il serait impossible d'aller maintenant, par exemple. Un jeune routard
n'irait pas s'aventurer
dans ces endroits qui sont maintenant devenus dangereux.
Ou à l'inverse, on pourrait se demander si aujourd'hui l'idée de mode de vie alternatif n'a pas disparu dans une forme de mondialisation ou d'uniformité mondiale. Est-ce qu'un endroit du monde nous échappe encore ?
Alors, Lévi-Strauss parle de ça très bien dans Triste Tropique, parce qu'il alterne des descriptions de l'intérieur du Brésil, qui existe encore à l'heure actuelle, qu'on peut éprouver en prenant un bus et en faisant 3 jours de bus et on se retrouve.
C'est possible.
Oui, ça c'est possible et en fond ça n'a pas tellement changé. Et puis d'autres descriptions de populations autochtones qui elles ont un peu plus changé parce que les effets de la du colonialisme interne, de la spoliation des terres, etc., ont rendu ces sociétés relativement exposées au monde extérieur. Et donc il y a un certain exotisme, il faut bien employer le mot, qui est toujours accessible, si je puis dire, un exotisme au sens de quelque chose qui est différent de la manière de vivre que l'on connaît chez soi et qui est repérable dans bien des régions du monde. Et donc c'est la raison au départ pour laquelle j'avais été intéressé, c'est une mauvaise raison. Et puis peu à peu je découvre d'abord un grand écrivain, et ça c'est quelque chose auquel j'étais évidemment très sensible, et un philosophe, c'est-à-dire quelqu'un qui proposait des réflexions profondes sur la nature humaine, sur la différence des civilisations, sur la manière dont l'Occident avait peu à peu détruit la diversité des façons de vivre la condition humaine ailleurs dans le monde, un homme immensément cultivé qui, au détour d'une phrase, faisait des comparaisons entre Chopin et Debussy. Chateaubriand tout d'un coup, alors qu'il était à cheval dans le Cerrado, c'est-à-dire dans la grande savane du Brésil central, dans des conditions de vie qui sont pas toujours faciles, mais qui transportait avec lui au fond cette culture profonde qui lui permettait à la fois d'avoir une sorte de réserve personnelle dans laquelle puiser dans les moments d'incertitude et les moments difficiles, et qui était aussi le filtre au moyen duquel il pouvait observer le monde.
Puis il est drôle.
Ah oui, il est très drôle.
On ne le dit pas assez, parce que dans l'archive qu'on a entendu, effectivement, il révèle bien l'idée qu'il avait de Triste Tropique, c'est-à-dire lui-même, de faire une photo de lui-même pris dans le paysage et d'avoir une approche réflexive du travail d'ethnographe, ethnologue, puis anthropologue. On pourra faire la distinction, Philippe Descola. Mais il est extrêmement drôle quand il s'en prend à la littérature de voyage un peu mauvaise dont vous parliez, quand il parle de sa découverte de l'ethnologie, mais avant ça, de ses études de philosophie. tout le monde en prend pour son grade. Les pauvres étudiants de médecine sont renvoyés à des êtres vulgaires et folkloriques d'extrême droite. Il a vraiment, il lui-même est dans l'autodérision, mais il critique énormément de choses avec, pas gratuitement, mais avec de l'humour en fait.
Oui, il est très drôle et il décrit par exemple fort bien des situations, ces situations loufoques et quelquefois un peu dangereuses d'ailleurs, dans lesquelles on peut se trouver quand on voyage, où il y a une méprise sur l'identité qui fait que les autorités locales, par exemple, vous considèrent avec suspicion. C'est quelque chose que j'ai connu aussi. Je me suis fait arrêter par l'armée équatorienne en Haute-Amazonie et considéré un moment comme un espion, par exemple. Et il raconte des histoires comme ça, et ça, c'est qui sont au fond le même genre d'aventures de voyage que l'on trouve dans les récits de voyage que lui-même critique d'une certaine façon.
Alors, c'est
un peu un paradoxe.
Voilà, ça, quelle est la différence entre la littérature de Lévi-Strauss qui dit « je ne veux pas tomber dans les récits de voyage plein d'anecdotes où en fait c'est juste le nombre de kilomètres parcourus qui compte » et la mauvaise littérature?
La grande différence, c'est que c'est un livre réflexif, c'est une autobiographie intellectuelle, c'est pas un récit de voyage. Donc effectivement,
mais ça fourmille d'anecdotes de voyage.
J'étais rentré dedans, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme dans un récit de voyage, et progressivement, je découvre encore une fois un grand écrivain qui réfléchit sur lui-même et sur le monde, sur la condition humaine, et qui et de ses récits de voyage et de ses expositions ethnographiques tire une matière à penser tout à fait exceptionnelle. Et donc c'est cette espèce de balancement constant dans le livre entre la difficulté de préparer l'expédition chez les Nambikwara où il faut des mulets pour porter et des ânes pour porter les hommes, des bœufs pour porter la nourriture des mulets, un camion pour porter la nourriture des bœufs, etc. Et donc des choses qui sont très concrètes et qui tout d'un coup basculent lorsqu'il arrive au bord de la rivière où il voit les premiers Nambikwara, et après on démarre dans un autre registre, et c'est ces alternances permanentes entre des anecdotes au fond et des récits d'aventures de voyage, et puis ces réflexions profondes qui fait tout le charme du livre. Quand j'ai lu le livre, à vrai dire, c'est pas tellement les descriptions ethnographiques. J'étais évidemment intéressé par les descriptions ethnographiques. C'est le personnage qui m'avait fasciné. Je me suis dit, voilà un homme, un grand humaniste de la Renaissance, d'une certaine façon. Pour moi, c'était quelqu'un comme Montaigne. À la fois, comme je l'ai dit, un écrivain, un homme très cultivé, mais qui... N'hésitez pas non plus à s'aventurer dans des parties du monde peu connues pour apprendre à mieux connaître précisément des populations qu'on avait et qui, à l'époque au Brésil, étaient considérées comme des marginaux et des sauvages. Et donc, je me suis dit qu'un personnage aussi intéressant, s'il faisait un métier comme l'ethnologie, dont il parle au fond... à l'occasion, mais c'est pas le leitmotiv du livre, hein, c'est vraiment une autobiographie intellectuelle. C'est que l'ethnologie mérite un peu d'effort et que c'est un beau métier. Donc c'est pour ça que c'est un livre déterminant pour moi, parce que c'est la rencontre du personnage au fond qui a déclenché la vocation un peu par ricochet, plus que la découverte au fond de ce que c'est qu'une enquête ethnographique. J'ai lu après pas mal de livres d'ethnographie, des enquêtes ethnographiques qui m'ont confirmé au fond dans mes choix. Mais le livre n'est pas véritablement... Il y a quelques enquêtes ethnographiques.
Mais ça devait d'ailleurs être un livre un peu mal vu, même par les anthropologues ou les ethnologues, c'est-à-dire tout à coup... Lévi-Strauss qui se raconte, et en fait c'est pas vraiment un livre d'ethnographie parce que c'est plutôt quelque chose de réflexif avec aussi des réflexions sur l'air du temps, sur nos clichés, et qui se veut d'ailleurs assez drôle comme j'ai dit, mais critique aussi.
Vous savez, dans les circonstances dans lesquelles il a écrit le livre,
dites-moi.
Il venait de se faire blackbouler à la Sorbonne. Et pour quelqu'un de sa génération et de son époque, la Sorbonne c'était le summum.
Le
Et donc, échouer à une chaire, à la candidature à une chaire à la Sorbonne, c'était, il ne pouvait pas y avoir de pire camouflet. Mmh. Et c'est à ce moment-là que Jean Mallory, qui venait de créer la collection Terre humaine, et le premier volume de la collection, c'était Les derniers rois de Tulé, donc le livre de Mallory, lui a proposé de faire le deuxième livre. Et il s'est dit, après tout, maintenant, ma carrière est fichue. Après un tel échec, je peux faire ce
Mais il avait quel âge à ce moment-là? 45 ans, à peu près?
Quelque chose comme ça, oui.
Ouais. En 55 que c'est paru, Triste Tropique.
Je peux me permettre de faire tout ce que je veux. Et à vrai dire, c'est pour ça qu'il s'est lâché. Il n'avait plus de précautions à prendre. Et ça lui a pas tellement porté préjudice, puisqu'il a fait carrière ensuite et que certains de ses grands livres ont beaucoup attiré l'attention. Je pense en particulier à La Pensée sauvage, qui est un des grands livres de philosophie du XXe siècle, même si les philosophes ont considéré ce livre avec un peu de suspicion.
C'était normal, vu comment il parle des philosophes dans Triste Tropique. on n'avait pas spécialement envie... Les philosophes n'avaient pas forcément envie de le valoriser.
Oui, il y avait une relation compliquée avec les philosophes. Comme beaucoup d'anthropologues qui viennent de la philosophie, et c'est mon cas, ont depuis que cette option existe, c'est-à-dire de basculer de la philosophie vers les sciences sociales, elle existe depuis au moins Durkheim, on se rapporte compliqué. Et donc, on dit que, c'est lui-même qui le dit d'ailleurs quelque part, que Paul Rivet, qui était le pape de l'américanisme à l'époque, une grande figure de l'anthropologie, de la linguistique américaniste, et qui était à l'époque directeur du Musée de l'Homme, et qui recevait les jeunes américanistes dans son salon tout en haut du Musée de l'Homme, lui avait fermé la porte parce qu'il considérait que le Triste Tropique était pas du sérieux. Mais ça ne lui a pas empêché, après, de faire une belle carrière. Mais au fond, il était conscient de ce que il pouvait susciter l'animosité des collègues et des mandarins. Et au fond, il a décidé de sauter le pas néanmoins.
Je voudrais avoir vécu autant des vrais voyages, quand s'offrait dans toute sa splendeur un spectacle non encore gâché, contaminé et maudit. N'avoir pas franchi cette enceinte moi-même, mais comme Bernier, Tavernier, Manucci. Une fois entamé, le jeu de conjectures n'a plus de fin. Quand fallait-il voir l'Inde? À quelle époque l'étude des sauvages brésiliens pouvait-elle apporter la satisfaction la plus pure, les faire connaître sous la forme la moins altérée? Chaque lustre en arrière me permet de sauver une coutume, de gagner une fête, de partager une croyance supplémentaire. Mais je connais trop les textes pour ne pas savoir qu'en m'enlevant un siècle, je renonce du même coup à des informations et à des curiosités propres à enrichir ma réflexion. Et voici devant moi le cercle infranchissable. Moins les cultures humaines étaient en mesure de communiquer entre elles, et donc de se corrompre par leur contact, moins aussi leurs émissaires respectifs étaient capables de percevoir la richesse et la signification de cette diversité. En fin de compte, je suis prisonnier d'une alternative. Tantôt voyageur ancien, confronté à un prodigieux spectacle dont tout ou presque lui échappait, pire encore, inspiré raillerie et dégoût, tantôt voyageur moderne, courant après les vestiges d'une réalité disparue. Sur ces deux tableaux, je perds, et plus qu'il ne semble. Car moi qui gémis devant des ombres, ne suis-je pas imperméable au vrai spectacle qui prend forme en cet instant, mais pour l'observation duquel mon degré d'humanité manque encore du sens requis ? Dans quelques centaines d'années, en ce même lieu, un autre voyageur, aussi désespéré que moi, pleurera la disparition de ce que j'aurais pu voir et qui m'a échappé. Victime d'une double infirmité, tout ce que j'aperçois me blesse, et je me reproche sans relâche de ne pas regarder assez.
France Culture, le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie.
Un extrait de Triste Tropique de Claude Lévi-Strauss, lu par Nicolas Berger. Ce texte date de 1955. On en parle avec vous, Philippe Descola. On vient d'entendre un extrait de la première partie, La fin des voyages. Cette question est posée. Qu'est-ce qu'un vrai voyage ? Il y a cette idée chez Claude Lévi-Strauss qui revient. Qu'est-ce qu'un vrai voyage ? Et presque cette impossibilité pour l'anthropologue, l'ethnologue, de vraiment voyager.
Alors, ce que Lévi-Strauss souligne dans cet extrait, c'est une contradiction caractéristique du travail ethnographique. Vous entendrez souvent des ethnographes dire « ce que j'ai vu, plus personne ne pourra le voir après moi ». Parce qu'évidemment, avec le cours du temps et l'expansion de la globalisation, les sociétés se transforment, sa culture, des éléments importants de leur vie sociale et culturelle disparaissent. Et donc on a le sentiment que, alors que c'est le hasard qui nous fait être un observateur à un instant T de la vie d'une société, on emporte avec soi le sentiment que cet instant T est le plus important, puisque c'est celui où on était là, mais que si on avait été là plus tôt, il y a des choses qui ont maintenant disparu qu'on aurait pu observer. Et je me souviens que chez les Atchouars,
donc là où vous avez effectué votre
terrain. Là où j'ai fait mon terrain
à la fin des années 70.
En Haute Amazonie, les Atchouars avaient accepté les premiers contacts pacifiques pas trop peu de temps auparavant. Et un rigaton, c'est-à-dire un colporteur fluvial, un métis qui faisait du troc avec les Atchouars depuis plusieurs années en pirogue et qui échangeait des pots de pécari contre des outils métalliques pour l'essentiel et des tissus, m'a dit « il y a 10 ans, vous n'auriez pas pu être ici, il vous aurait tué ». Et donc, évidemment, on est saisi par le fait qu'il y a 10 ans, il y a probablement des choses que l'on aurait pu observer et qui déjà commençaient à s'effriter lorsque j'étais sur le terrain. Et mon rêve, et comme celui de Lévi-Strauss dans ce passage, ça aurait été d'être transporté par une sorte de tapis volant dans l'Amérique précolombienne, c'est-à-dire avant la conquête, en 1491, pour observer les Mayas, les Mexicas.
Mais c'est presque un travail d'historien, ça.
Oui, non, mais le problème, c'est que dans cette région du monde, il y a relativement peu de sources. Les sources arrivent avec les conquistadors, et donc elles sont déjà biaisées par le regard. Il faut donc les prendre avec précaution. Il n'y a pas de voyage là aussi, parce que même si la fiction que j'invente, c'est-à-dire d'être transporté
sur un tapis volant,
en fait, si j'avais été un homme de cette époque que j'avais précédé d'un an, la présence de Christophe Colomb, j'aurais été imbu des préjugés de cette époque, et donc je n'aurais pas vu véritablement ce que moi je vois après 5 siècles de travaux historiques, après 5 siècles de travaux ethnographiques, après 5 siècles de réflexivité et de développement des sciences humaines et sociales, parce que j'aurais vu ce que un observateur de l'époque voyait, c'est-à-dire avec les œillères et les préjugés de cette époque.
Est-ce que ce paradoxe que décrit Lévi-Strauss et que vous décrivez, Philippe Descola, constitue un inachèvement de votre métier d'anthropologue ? Est-ce que cet inachèvement-là, il permet au contraire d'être ouvert à d'autres manières d'accueillir, de regarder, d'observer? Ou est-ce qu'il y a, au fondement même de votre travail, un échec qui est la rencontre intacte, réelle?
Il y a un échec, c'est... Il y a un échec que l'on cherche à surmonter. Comment ? En transformant les outils au moyen desquels nous appréhendons des populations dont les façons de faire monde sont très différentes des nôtres. Et comment est-ce qu'on peut le faire ? En essayant de remanier sans cesse ces outils, c'est-à-dire les concepts au moyen desquels nous décrivons, parce que ces outils sont eux-mêmes le produit d'une évolution historique tout à fait singulière, qui est celle de l'Europe, et notamment de l'Europe des Lumières. Et tous les outils que nous employons, tous les concepts que nous employons, sont des concepts qui sont liés à l'émergence de l'Europe comme une entité historique qui porte sur elle-même un regard réflexif. Donc lorsque nous parlons de société, lorsque nous parlons de nature, lorsque nous parlons de culture, d'art, d'histoire, d'économie, nous employons des concepts qui sont le produit de ce mouvement historique tout à fait singulier, qui est celui de l'Europe, mais qui ne correspondent pas aux faits tels qu'on peut les observer. Et donc, le travail de l'anthropologue consiste à remanier ces concepts de façon à être à la fois plus proche de ce que les observateurs décrivent de civilisations non européennes, et en même temps comparables entre elles. Et donc c'est un travail infiniment recommencé. C'est la toile de Pénélope qu'il faut remettre sur le métier jour après jour.
Comment on sait qu'un concept doit être remanié ? Comment on comprend sur le terrain et à la lecture, peut-être pour vous, Philippe Descola, en repensant à votre lecture de Triste Tropique quand vous étiez sur le terrain, je ne sais pas si ça vous est arrivé, à vous dire là, en fait, je tombe dans cet écueil de la naïveté, de penser toucher à quelque chose de vrai, alors qu'en fait c'est une construction, d'être dans une forme d'exotisme. Comment on se prémunit contre ça ? Parce que j'imagine que des chercheurs autour de vous sont tombés dans ces écueils.
Ah ben on tombe toujours dans cet écueil, il est difficile d'y échapper parce qu'il est, difficile de d'échapper à la glissade sémantique, si je puis dire, qu'implique l'usage de concepts au moyen desquels on cherche à décrire une réalité. Sur le terrain, le premier avertissement, si je puis dire, de ce que les concepts que j'employais étaient inadéquats, il est venu d'abord quand j'ai commencé à comprendre et à parler cette langue, qui est une langue non pas extrêmement difficile, mais enfin dont la structure était complètement différente de celle des langues européennes que je connaissais. Et lorsque je me suis rendu compte que ce que j'étais parti étudier au départ, c'est-à-dire le rapport entre une société amazonienne et la nature qui l'environnait, avait été mal formulé, en ce sens que pour eux, la nature n'existait pas. C'est-à-dire qu'ils étaient au jour le jour en interaction avec des plantes et des animaux, dotés d'une âme, de capacité de communication, de capacité réflexive, etc. Et donc, une partie du bagage de la métaphysique occidentale que j'avais amené avec moi, et bien sûr, qui avait joué un rôle dans ma formation, puisque, encore une fois, j'étais philosophe de formation, me paraissait tout d'un coup ne pas correspondre du tout à ce que j'observais. Et donc, c'est le terrain qui vous dégourdit l'esprit, c'est le terrain qui vous amène à prendre au sérieux le fait que ce que les gens disent peut, au fond, être en contradiction avec ce que les catégories au moyen desquelles vous pensez vous-même le monde. Et donc vous incitez à transformer ces catégories. Mais c'est pas sur le terrain que vous faites. Ce que vous faites sur le terrain, c'est de prendre conscience de ce décalage.
Vous observez.
On observe.
Vous récoltez les informations et vous vous rendez compte de la mise à l'épreuve de ce que vous pensiez.
Exactement.
Sur le moment.
Et après, on essaye de dépasser au fond ces impossibilités descriptives en inventant des nouvelles façons à la fois de décrire, puisque c'est quand même le propre du travail ethnographique, le travail sur le terrain, c'est l'ethnographie, c'est la description de façon et Lévi-Strauss le montre bien dans son livre. Il était. Je vais faire une petite parenthèse d'ailleurs, parce que Lévi-Strauss a dit à plusieurs reprises dans des entretiens qu'il était mauvais ethnographe. Et c'est vrai qu'il n'a jamais passé très longtemps dans les populations qu'il a étudiées, chez les Bororo à peine plus d'un mois, chez les Nambikwara un peu plus longtemps, chez les Kaingang ou les Tupi-Kawaib aussi peu de temps, mais à chaque fois il a fait une ethnographie extrêmement méticuleuse. On le voit dans les carnets de terrain qui sont conservés à la Bibliothèque nationale, et on le voit dans certains articles scientifiques, en particulier pour les Bororo. Un article de 1937 que moi je connaissais comme américaniste, évidemment, paru dans le journal de la Société des Américanistes, et qui était une description de l'organisation sociale et des objets qui faisaient fonction, j'allais dire presque de blason pour les Bororo, à savoir les empennages de flèches et les étuis péniens, qui sont deux types d'objets, et évidemment les grands diadèmes, les grandes parures qu'on appelle des paricots. Et la précision dans la description de cette organisation sociale et dans la description de ces objets montre quelqu'un qui passait son temps à prendre des notes, qui était un ethnographe extrêmement consciencieux. Et donc, lorsqu'il dit qu'il n'a pas la patience de faire de l'ethnographie, c'est possible. Mais lorsqu'il l'a fait, elle est de très grande qualité. Et on pourrait s'interroger si, au lieu de passer un mois, il avait passé deux ans chez les Bororo, de l'extraordinaire ethnographie qu'il aurait pu produire. Donc, cette première expérience ethnographique, qui est donc de description et qui, au fond, est guidé un peu par le hasard. On le voit bien aussi dans Triste Tropique. On arrive quelque part à un certain moment.
On tombe sur la bonne personne,
on tombe
au contraire
sur
la mauvaise personne qui nous redirige ailleurs.
Voilà, il peut y avoir des incidents, il peut y avoir un conflit qui va faire se disperser les gens, etc. Et lorsque on est au bon moment pour observer un événement, par exemple, ou pour entendre des propos qui, tout d'un coup, orientent votre recherche dans une direction nouvelle, mais il se peut aussi qu'on ne tombe jamais sur le bon moment opportun. Et quel que soit le caractère méthodique de l'enquête, on peut ignorer des choses qui sont importantes. Donc, ce que j'ai souvent dit à mes étudiants, c'est que le moment où l'enquête ethnographique commence à devenir productive, c'est quand on arrête de poser des questions, tout simplement. On est là, on vit chez les gens, on écoute ce qu'ils disent en permanence, et c'est là que les informations affluent. Donc ça, c'est cette première phase que Lévi-Strauss décrit au fond dans les différentes enquêtes ethnographiques qui forment une partie de la matière de Triste Tropique. Et la deuxième phase, c'est l'ethnologie, c'est-à-dire lorsqu'il compare ou lorsque l'on compare des institutions que l'on a soi-même étudié avec d'autres qui sont présentes.
Donc on passe de l'ethnographie à l'ethnologie.
À l'ethnologie, c'est ça. Donc ça a été pendant longtemps le terme classique qui désignait les recherches dans notre discipline. Par exemple, lorsque Lévi-Strauss s'intéresse aux Bororo, qui sont une société à moitié, c'est-à-dire où le Le groupe social est divisé en deux moitiés qui échangent en permanence, notamment des conjoints. On peut s'intéresser à ces sociétés dualistes d'une manière générale, parce qu'elles sont présentes aussi bien en Amérique du Sud que dans d'autres régions du monde. Et à ce moment-là, on fait une sorte de généralisation, de une première étape de généralisation pour s'intéresser à un phénomène social. Mais c'est toujours inductif, c'est-à-dire on part des matériaux qui vous sont fournis par les enquêtes ethnographiques des autres.
Et vous montez en généralité.
Et on monte en généralité. Et puis la troisième étape, c'est Lévi-Strauss qui a proposé d'ailleurs ces trois étapes. La dernière étape, qui est l'anthropologie, c'est un terme qui était très peu employé en France avant que Lévi-Strauss le généralise à son retour des États-Unis, alors que c'était le terme le plus couramment employé aux États-Unis, anthropologie sociale et culturelle, pour désigner une troisième étape qui, aux États-Unis et au Royaume-Uni, était considéré comme un pas supplémentaire dans la généralisation, mais qui, en France et à la suite de Lévi-Strauss, était considéré comme une démarche différente de celle de l'ethnographie et de l'ethnologie, une démarche plutôt hypothético-déductive. Mmh. Pourquoi hypothético-déductive ? Parce que l'idée est la suivante, c'est que le chercheur, à partir des informations dont il dispose, fait des hypothèses contre certaines propriétés formelles de la vie sociale. C'est ce que Lévi-Strauss a fait, par exemple, pour la parenté dans le système des échanges matrimoniaux. Et ensuite, à partir de ces hypothèses, il va tester, au fond, ces hypothèses avec les matériaux ethnographiques qui sont disponibles. Et Lévi-Strauss le fait dans les structures alimentaires de la parenté, par exemple, en étudiant différents systèmes d'échanges de conjoints qui sont fondés sur des règles croissent en complexité, si je puis dire. Donc ça, c'est les trois démarches. Et ce qui est intéressant dans Triste Tropique, c'est que au fond, l'anthropologie, et notamment l'anthropologie structurale, pour laquelle Lévi-Strauss est le plus connu, n'est pas présente sous cette forme-là. C'est un livre d'ethnographie et d'ethnologie, c'est un livre de réflexion, encore une fois, sur la condition humaine, sur le destin de la civilisation, sur le caractère mortifère aussi de la civilisation pour toutes les particularités culturelles qui sont écrasées par le rouleau compresseur de la globalisation. Mais c'est pas un livre théorique en ce sens-là.
Mais quand même, dans ce texte, Philippe Descola, Claude Lévi-Strauss dit « Ne suis-je pas imperméable au vrai spectacle ?» Il y a cette question quand même du vrai voyage, du vrai spectacle. C'est quoi la vérité dans votre métier, dans la mesure où vous parlez de l'ethnographie, il y a un travail de retranscription, donc déjà le langage intervient, il y a un travail de concept qui est historiquement situé, il y a un travail après d'hypothèse. Est-ce qu'il y a de la vérité dans votre métier ?
Alors la vérité, c'est ce qui...
Parce qu'il emploie ce terme, Lévi-Strauss, mais oui, il ne le définit pas.
Oui, alors c'est parce qu'il est un philosophe, et donc c'est un terme quand on est philosophe, qu'on emploie toujours avec une certaine méfiance, à la différence des scientifiques, au fond, qui affirment que ce qu'ils font, c'est la recherche de la vérité à travers la mise en évidence des lois de comportement de la matière voire de certains types de comportements humains. Le vrai, en l'occurrence, c'est quelque chose qui correspondrait à une adéquation entre une situation et des aspirations d'un individu, je pense, lorsqu'il part de vrais voyages. Une situation, c'est-à-dire une situation dans laquelle, encore une fois, on peut, observer un peuple en ayant les moyens intellectuels de comprendre et de rendre, pertinent ce que ce peuple fait avec les outils qui correspondent au fond au progrès scientifique, c'est-à-dire au progrès de la discipline anthropologique, mais à une période où ces outils n'étaient pas nécessairement disponibles. C'est ça la contradiction de son du vrai voyage. C'est-à-dire à une époque où on est transporté, encore une fois, c'est ce que j'évoquais avec l'expérience du tapis volant, on est transporté dans une situation complètement nouvelle, dans laquelle il n'y a pas eu Lévi-Strauss parle de contamination, alors ça peut paraître un peu dérogatoire, mais en fait c'est simplement des transmissions, toute société est influencée par ses voisines, simplement l'ampleur de cette influence peut varier. Et lorsque c'est le cas en Amazonie, de très nombreuses sociétés différentes, parlant des langues très différentes, il y a encore à l'heure actuelle en Amazonie plus de 400 langues différentes qui sont parlées. Et donc c'est un univers très morcelé, même si il est très vaste. Ces sociétés ont à la fois des points communs, mais aussi des différences profondes du point de vue de leur organisation sociale, qu'elles amplifient peut-être, c'est une autre hypothèse que Lévi-Strauss développe dans son livre, par proximité, c'est-à-dire on s'attache à faire le contraire de ce que font les voisins. Et donc ça amplifie les différences de façon délibérée pour marquer au fond la spécificité.
Donc on détecte des aspects vrais, mais on ne pourra pas dire qu'on a touché à... La vérité.
Non, je pense que c'est quelque chose qui est hors de portée. La vérité dans les sciences sociales et en anthropologie, c'est simplement ce qui permet de rendre compte de la façon toujours provisoire et la plus pertinente.
En fait, la plus juste, c'est pas l'idée de vrai, c'est d'être juste.
C'est d'être juste, c'est-à-dire à la fois d'être adéquat aux faits et d'être le plus économe au sens du rasoir d'Occam dans la mobilisation, au fond, des arguments pour construire des modèles de la vie sociale.
Philippe Descola, vous êtes anthropologue, vous avez été professeur au Collège de France, vous avez publié plusieurs ouvrages, notamment en 2005 par-delà Nature et Culture. Est-ce que vous avez dépassé le maître Claude Lévi-Strauss avec justement cette distinction nature-culture que vous critiquez et que vous tentez d'abolir et que pour le coup Claude Lévi-Strauss n'avait pas perçu en tant que tel?
Alors, je n'ai pas certainement pas dépassé le maître parce que j'étais très influencé et je continue à l'être par le type d'anthropologie qu'il a créé.
C'est-à-dire, c'est quoi l'anthropologie qu'il a créé?
L'anthropologie structurale, c'est-à-dire l'idée que un phénomène ne peut pas être analysé et compris de façon indépendante, mais toujours par contraste avec d'autres phénomènes, qui est un héritage, bien sûr, de la linguistique, de la phonologie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre un système de mariage si on ne le met pas en... si on ne le compare pas à un autre système de mariage. Et donc, au fond, ce qui est l'objectif de l'anthropologie, c'est non pas de chercher des ressemblances, comme ça a longtemps été le cas, de façon à produire des classes de phénomènes qui se ressemblent, c'est de chercher une systématique des différences. Ça, c'est vraiment le message de l'anthropologie structurale, c'est celui que j'ai retenu, comme d'autres de mes collègues au fil du temps, et toute la question autour du rapport entre nature et culture, c'est, je pense, une sorte de malentendu. D'abord, Lévi-Strauss a lui-même dit que c'est une opposition de type méthodologique et non pas ontologique ou principielle. Et donc, lorsque j'ai essayé de mettre en évidence qu'il y avait d'autres moyens de comprendre ces systèmes de différences qu'en utilisant l'opposition nature et culture, je me suis contenté de poursuivre au fond dans la direction que Lévi-Strauss avait ouverte, mais sans employer les concepts que lui-même utilisait. Je pense par exemple que dans les mythologiques, qui est cet extraordinaire odyssée dans les mythes, surtout amérindiens, d'Amérique du Sud et d'Amérique du Nord, Lévi-Strauss utilise le contraste entre nature et culture pour répartir des qualités sensibles de part et dans des matrices d'opposition sémantique, et qui pourrait très bien faire, il aurait très bien pu faire cela en utilisant pas les étiquettes de nature et culture, mais en maintenant en quelque sorte ces systèmes d'opposition sans les subsumer sous les catégories de nature et culture. Il se trouve que...
Mais il suivait vos travaux, Philippe. Philippe de Scola, Claude Lévi-Strauss suivait vos travaux. Il est décédé en 2009, ce livre est paru en 2005.
Oui.
Qu'est-ce qu'il en pensait?
Alors, on en a un peu parlé. Et je me souviens que la conclusion de sa conversation, il en parle un peu dans une lettre qui est publiée
dans le cahier de l'herbe qui
m'est consacré, et dans lequel il disait au terme de cette conversation, si j'avais 20 ans je reprendrais toute cette affaire de nature et culture à la racine. Et d'ailleurs, dans le cahier de l'herbe qui était consacré à Lévi-Strauss, où j'écris un article sur précisément les natures de Lévi-Strauss, pour essayer de montrer à quel point dans son œuvre l'opposition entre nature et culture prenait des formes extrêmement différentes, variées, à la fois méthodologiques, mais aussi plus fondamentales, puisque Lévi-Strauss était j'allais dire un réductionniste, en ce sens qu'il a écrit à plusieurs reprises que le fonctionnement, quand on connaîtrait le fonctionnement du cerveau, au fond, il serait inutile de faire des sciences sociales, parce que ça nous donnera, au fond, les clés pour comprendre la diversité.
Bah pour un amateur de Freud et de Saussure, très étonnant quand même.
Des institutions humaines, il était... Alors, il y aurait beaucoup à dire là-dessus. On va pas faire un cours du Collège de France là-dessus. Mais, en effet... pour un amateur de... Au fond, c'était un amateur de Freud, parce que ce qui, pour lui, était important, c'était l'idée qui tranchait, en fond, sur une certaine anthropologie de l'époque, que l'inconscient joue un rôle fondamental dans l'étude des institutions sociales, parce qu'une grande partie du substrat de ces institutions n'est pas conscient.
I'm long, lean or lanky, cool, cruel or cranky, old, bold, no thank you. Don't like that kind of gal, no how. Don't like 'em short, squat or stumpy, grouch, green or grumpy, dull, dumb or dumpy. Don't like that kind of gal, no how. Now the type I mean must think I'm a king, and I'm just much too much. Should have looks galore, and what's more, a lot of dough. That she loves me to touch, so make her tan, true and thrilling, whose kiss will just drive me silly. Please, no hillbilly, I need that kind of gal somehow. I need that kind of gal somehow.
Cette chanson, Philippe Descola, pour introduire cette séquence de fin dans l'émission. On aurait pu parler encore des heures de Triste Tropique et de Claude Lévi-Strauss, mais bon, nous devons passer à la fin. Et donc, après nous avoir parlé de cet auteur que vous aimez tant, place à un auteur qui vous résiste, que vous ne comprenez pas ou que tout simplement vous n'aimez pas. De qui s'agit-il ?
Alors, c'est pas un auteur qui me résiste ou que je n'aime pas en général, c'est un livre de cet auteur. Et l'auteur, c'est Hegel. Et lorsque j'ai lu les leçons ou l'introduction à la philosophie de l'histoire, qui étaient des leçons qu'il a professées lorsqu'il était professeur à Berlin, qui ont été publiées après sa mort, j'ai été révulsé, non pas par le propos général, puisque le propos général, on le connaît, c'est l'idée que l'esprit absolue se réalise comme conscience de soi à la fois individuelle et collective. Volksgeist se réalise dans les peuples et est conditionné aussi par l'environnement, c'est-à-dire il était héritier des théories du climat, et l'esprit absolu se réalise plus ou moins bien lorsqu'il se dresse contre la nature dans certaines circonstances, ou lorsqu'il arrive à transformer la nature de telle façon qu'il produit des civilisations intéressantes. Et pour Hegel, dans ce livre, tous les peuples ne parviennent pas aussi bien
c'est ça qui vous
à ce
a révulsé.
Résultat. C'est ça qui m'a révulsé. On connaît ces propos sur l'Afrique en particulier, dans lequel les Africains représentent l'homme naturel dans toute sa sauvagerie et sa pétulance. Et ils sont incapables de transcendance, ils sont incapables de concevoir une liberté spirituelle, ils sont incapables d'inventer des institutions comme l'État, etc. Et d'une certaine façon, la remarque de Nicolas Sarkozy en Afrique, qui avait beaucoup provoqué de commentaires que les Africains n'étaient pas rentrés dans l'histoire, était une sorte. Je doute fort qu'il ait lu Hegel, mais c'était.
Ses conseillers sûrement.
C'est l'un de ses conseillers probablement, et c'est un résultat au fond de cette approche. Et avec les Amérindiens, d'une certaine façon, c'est pire. Il reprend une sorte de lieu commun qui a été popularisé par Buffon. Selon lequel l'Amérique est pauvre en grand germe, c'était l'expression de Buffon, c'est-à-dire la vie organique y est amoindrie par rapport à l'Europe, et de ce fait les autochtones amérindiens étaient incapables de sortir de leur état primitif dû à la pauvreté et au rapetissement des organismes sous ce ciel avare et dans cette terre vide. Donc,
vous citez Hegel, hein, là, je précise.
Oui, absolument. Alors, encore une citation de Hegel que j'ai repris. Hein. Les Amérindiens sont comme des enfants inconscients qui vivent au jour le jour privés de toute réflexion et de toute intention supérieure. Et au fond, on peut pas imaginer de meilleur contraste avec Triste Tropique que ces remarques de Hegel, qui pourtant était un homme infiniment savant, qui lisait énormément, mais ce qui frappe en l'occurrence, c'est que ça tranche complètement avec un autre grand savant allemand de l'époque, qui est Alexandre von Humboldt, qui était son exact contemporain, qu'il a probablement rencontré à plusieurs reprises, même si Humboldt a passé une grande partie de sa vie en France, la fin de sa vie, il l'a passé à Berlin, et qui a ramené des Amériques, de sa grande expédition dans les Amériques, des documents à la fois ethnographiques et naturalistes qui vont complètement à l'encontre de la thèse de Hegel. Donc c'est un grand philosophe par ailleurs, mais qui n'est pas du tout troublé par la contradiction qu'il y a entre les données empiriques au moyen desquelles il développe sa pensée et le propos philosophique général qu'il oriente.
Peut-être une erreur de la philosophie que n'a pas justement l'anthropologie. Merci beaucoup à vous, Philippe Descola. Sur vous, on peut lire le cahier de l'herbe qui vous est consacré. On y trouvera notamment cette lettre de Claude Lévi-Strauss que vous avez citée. De vous, on peut aussi lire les formes du visible parues aux éditions du Seuil, mais aussi par de la nature et culture disponible en folio. Et enfin, chers auditeurs, chères auditrices, lisez Triste Tropique. Évidemment, c'est exceptionnel, de Claude Lévi-Strauss, c'est disponible aux éditions Plon. Et un grand merci à Manon Delasselle qui a préparé cette émission, à Nicolas Berger à la réalisation, à Paul Guigues à la prise de son. Vous pouvez retrouver les émissions du Souffle de la Pensée sur le site de Radio France, le site de l'émission. Lundi, c'est une nouvelle série d'émissions d'Avec Philosophie que vous retrouverez à ce micro. Et le programme, ce sera le public.